France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Du centre de mise à mort au mémorial, des images pour montrer l'horreur nazie. L'écoute d'une émission de radio ou la lecture d'un livre ont cela de commun que les mots prononcés ou lus convoquent des images qui nous viennent à l'esprit. Tenez, s'il est question des plages du débarquement en Normandie le 6 juin 1944, les images qui nous viennent à l'esprit sont les photographies de Robert Capa ou alors le film Le jour le plus long. Quelles images pour la découverte des camps nazis ?
Je voulais faire le film et pour le faire, je n'avais que du néant.
À quelles conditions une image peut aider à construire une mémoire autrement que par la sacralisation ?
An album from Auschwitz.
Un album de photos d'Auschwitz.
I have family in there. That's those.
Ma famille est dans cet album. Ce sont les seules photos d'eux que je possède.
I never sold it.
Je ne l'ai jamais vendu.
Je ne veux pas faire un monument aux morts. Curieusement, on pourrait dire que même si le film n'est fait que de documents, c'est un film qui était obsédé par le futur, par l'avenir.
Christian Delage, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, réalisateur, un professeur émérite des universités. Et avec vous et avec Lior Lalieu-Smadja, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du service photothèque du mémorial de la Shoah à Paris. Nous allons réfléchir à cette question des images au moment de transmettre une histoire, une mémoire, et puis d'écrire l'histoire elle-même. Est-ce qu'on pourrait commencer tout simplement en faisant ce qu'on pourrait appeler une typologie des images dont nous disposons ? Les images prises dans les camps, de quoi dispose l'historien, l'historienne ?
Alors, je commence ?
Allez-y, allez-y.
Ok, alors, la première chose, c'est que les images, les photographies ont été partiellement, voire quasiment complètement détruites, censurées. Si on commence depuis la persécution des Juifs de France, puisque le mémorial de la Shoah s'intéresse à l'histoire des Juifs de France, la solution finale est quasiment pas illustrée. C'est-à-dire que si je vous parle de la rafle du Veldiv, votre imaginaire va voir les autobus. C'est tout. Si je vous parle de 80 convois, 76 000 Juifs déportés de France, vous ne voyez rien parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'image de la déportation des Juifs de France, il n'y a pas de film, il n'y a pas un bout de pellicule qui montre ça. Et parti de là, on peut aller plus loin, on va avoir les images de la propagande nazie. Si on illustre le camp de Drancy, nous n'avons que des images de propagande, etc. etc. Et puis là, on va parler des camps, des centres de mise à mort, des camps de concentration. Qu'est-ce qui nous reste comme image ? Vraiment pas grand-chose. À part, effectivement, la libération des camps et ces milliers de clichés qui ont été pris par les armées, les alliés, qui libèrent ces camps à ce moment-là.
Il y a le cas particulier, Christian Delage, par exemple, de quelques images qui nous viennent de l'intérieur des camps. Mais alors, elles sont très compliquées à utiliser, ces images-là.
Oui, vous faites allusion aux quatre images donc prises à Birkenau à l'été 1944 et sur lesquelles Georges Duberman a écrit ce texte magnifique qui s'appelle « Image malgré tout ». Ce sont des images de la crémation en fait des personnes qui viennent d'être gazées. Et puis une de ces images est prise de l'intérieur de la chambre à gaz numéro 5 à Auschwitz-Birkenau. Oui, ça c'est des images extrêmement rares. C'est des images qui proviennent en fait de la résistance polonaise. Mais pour revenir à votre question initiale, il y a plusieurs régimes d'images, en fait. Le premier, disons, c'est celui que les nazis pratiquent eux-mêmes. Alors, à la fois, effectivement, il y a une sorte d'interdiction, mais qui a connu des débordements, de filmer ce qui se passe dans les camps, en particulier l'extermination. Et ça, c'est tout le travail que Clément Chéroux a fait en 2001 à l'exposition « Mémoire des camps ». C'est toute la partie administrative, si vous voulez, de la gestion des camps, en particulier à Auschwitz-Birkenau, qui a donné matière à si vous voulez, une espèce d'inventaire de toutes les personnes qui arrivaient, photographies d'identité, etc. Ça, c'est une première chose, la partie administrative. Puis la deuxième, qui est à la fois administrative et plus compliquée, parce que ce sont des choses qui peuvent être gardées par un certain nombre d'officiels ou même offerts, ce sont les fameux albums. Hein, et donc, des albums, il y en a beaucoup. Et Hilsen Abou avait travaillé sur l'album de Buchenwald. L'album d'Auschwitz, qui est revenu dans l'actualité aujourd'hui, c'est Serge Klarsfeld, n'est-ce pas, qui l'a trouvé, qui l'a valorisé. Et en 1984, Alain Jaubert avait fait un film sur cet album. Donc ça, c'est la partie, je dirais, nazie. Et puis, il y a quelques images amateurs, faites par soit des témoins sur place, en particulier pendant la période de ce qu'on appelle la Shoah par balle, hein, c'est-à-dire les exécutions en plein air. Et puis, il y a ce qu'on appelle des images trophées. Ces images trophées, on peut vraiment les rapprocher de ce qui se passe aujourd'hui, en particulier ce qui s'est passé le 7 octobre. Hein, puisque vous le savez, le 7 octobre, les tueurs se sont filmés en train de commettre cet acte. Et cet acte de filmer, de photographier, faisait partie de l'acte terroriste. Donc les images trophées, c'est simplement des soldats allemands qui trouvent ça très drôle de filmer des moments d'exécution. On les voit parfois rire dans l'image. Donc ça, c'est vraiment évidemment ce qui peut nous terrifier le plus. Ça, c'est donc du côté des nazis. Et du côté des alliés, c'est-à-dire de ceux qui vont découvrir, qui vont ouvrir, qui vont libérer. Alors, tous ces termes, évidemment, évoquent des situations différentes. Pour Auschwitz-Birkenau, c'est ouvrir, puisque les nazis étaient partis et les convois de la mort avaient fait en sorte qu'il ne restait plus que ceux qu'il était quasiment impossible de transporter, 7000 personnes environ. Eh bien, là, nous avons plusieurs manières de faire sur lesquelles on va revenir. Mais disons qu'en gros, il y a la manière américaine de faire qui doit tenir compte du fait qu'ils sont très loin de ce qui s'est passé, qu'ils n'ont pas été victimes de ce qui s'est passé. Et donc, il va falloir faire un effort particulier par rapport à la population américaine pour faire croire en la réalité de ce qui est donné à voir. Alors que côté soviétique, on est face à quelque chose qui, évidemment, a touché énormément la population. Et donc, il n'y a pas besoin de faire un effort particulier pour convaincre, alors que près de 27 millions de personnes sont mortes.
Oui, des registres d'images différents. Et on voit bien cette complexité. L'image, mais c'est presque la méthode qui veut cela, nécessite beaucoup de méfiance. Et surtout quand ces images sont celles de camps portés ici par une volonté complexe des nazis. On ne sait pas, ce côté trophée, on le comprend, mais c'est toujours une mise en scène. La photo est une mise en scène. Lors la lieu ce match-là, il y a aussi cette volonté de détruire l'archive. Et ça, c'est important pour essayer de comprendre ce manque d'image. Les nazis, dans leur délire administratif, notaient tout, archivaient énormément. Il y avait des documents, dans le cas d'Auschwitz, par exemple, il y a eu des destructions gigantesques. Il fallait pas laisser de preuves.
Oui, il fallait pas laisser de preuves. Et si on repart sur les photos de l'administration, on pense à ces photos anthropométriques. Et nous, au Mémorial, on a souvent des familles qui viennent nous voir en nous disant est-ce qu'il existe des photos de ma famille? Voilà, puisque dans l'imaginaire, les Juifs arrivaient à Auschwitz, ceux qui étaient sélectionnés pour le travail étaient tatoués, photographiés. Et donc, on a cherché. Aujourd'hui, on sait que ces images ont été détruites pour la plupart. De peu d'images qui restent, 90% concernent les Polonais. Un faible pourcentage concerne les Juifs. Et concernant donc vraiment les Juifs de France, j'en ai trouvé 5. Sur les 76 000, et le peu qui est rentré dans le camp, voilà, 5 personnes ont été photographiées, voilà ce qui nous reste d'Auschwitz, des Juifs de France. Mais je voudrais revenir sur ces images nazies, les images des ghettos, tout ce qu'on a dans la tête, toutes ces images totalement anonymisées, qui faisaient partie de l'idéologie nazie, il fallait pas reconnaître qui que ce soit. Je trouve que les images des camps, par la suite, ne distingue assez peu aussi les déportés. Et d'un côté, ces images nazies, on essaye de retrouver les personnes. Yad Vashem fait un travail extraordinaire pour essayer de mettre des noms. Mais le miroir en face nous montre bien que ces personnes ont disparu. Sur les images des camps, la libération, c'est surtout le travail des amicales. Je ne sais pas ce que tu en penses, Christian, mais c'est les amicales de Mauthausen, de Buchenwald, de Dora Mittelbau, etc. ont fait un travail incroyable en essayant de retrouver les noms. Et c'est ce qui nous tient à cœur. Et donc, en miroir, le travail du Mémorial de la Shoah est essayer de reconstituer en images, puisqu'on parle de photographie, le sort de tous ces Juifs de France et d'essayer de retrouver leurs photographies avant, évidemment, et de reconstituer des destins. Et donc, c'est un vrai miroir, c'est une espèce aussi de revanche, de dire que non, ces Juifs ont été éliminés, destruction de leur vie, destruction de leurs souvenirs, puisqu'on sait aussi que les Juifs arrivaient avec des valises de photos, et que ces photos ont été détruites. Il s'agissait de ne trouver plus aucune trace de ces Juifs. Eh bien, non. Il faut continuer à faire ce travail un peu militant, de retrouver chacune de ces photographies, de ces histoires, de ces destins perdus.
Christian Delage.
Oui, alors, il y aura tout à fait raison. Ce qu'on peut ajouter, et c'est très important, c'est que ce qu'on découvre aussi quand on entre dans ces camps, que ce soit côté américain ou côté soviétique, c'est ce qui appartenait aux personnes qui ont été tuées. Et par exemple, à Auschwitz, les soldats russes, certes, sont sidérés, si vous voulez, en voyant ceux qui sont encore là et dans un état effroyable, mais sont tout aussi sidérés de découvrir les centaines de milliers de vêtements, de chaussures, d'objets, de cheveux, aussi horrible que ça puisse paraître, puisqu'il y avait tout un trafic, n'est-ce pas ? C'était, tout avait une valeur. Donc, ces images-là, au fond, malgré tout aussi, c'est-à-dire ces images qui appartenaient à ces personnes qui ont été sauvées, ça permet de garder une trace de leur passage, de leur vie. Et ça pose quand même un problème éthique. C'est-à-dire que quand on a, surtout pour les ghettos, quand on a des images qui sont faites par les nazis eux-mêmes, avec une volonté, si vous voulez, de souligner, par exemple, des traits qui seraient représentatifs de la race juive, je mets des guillemets, évidemment. C'est-à-dire qu'on distord, en fait, on essaye de distordre la figuration humaine. C'est pareil pour Theresienstadt, où un film avait été fait, un film qui travestissait totalement la réalité. Qu'est-ce qu'on fait avec ces images ? C'est-à-dire, ces images, c'est le dernier témoignage de la vie de personnes qui vont mourir. Alors évidemment, c'est à la fois extrêmement précieux et en même temps, on est un petit peu dans une situation délicate parce que ces images ont été faites par les bourreaux.
Et c'est quoi ce film, Theresienstadt ?
Alors Theresienstadt, c'est un film qui a été fait donc au moment où la Croix-Rouge devait visiter ce camp. Les nazis ont fait un film qui a mis du temps ensuite à être retrouvé parce que finalement, il a pas vraiment été diffusé. Ce film, en fait, on avait un peu repeint un certain nombre d'espaces, on avait réhabillé les gens, on leur avait redonné à manger, alors que juste après le tournage, on leur enlevait ce qu'on leur avait donné, si vous voulez, pour donner une sorte d'image qui serait positive de ce qui se passait à Theresienstadt,
qui était déporté des figurants de leur propre film, et effectivement.
Alors, on pourrait être face à ça et un peu ne pas savoir quoi en faire, justement, pour cette question éthique, mais on a la chance, si je puis dire, dans les archives, d'avoir, parce qu'il se passait beaucoup de choses à Theresienstadt, parce que c'était beaucoup des gens qui étaient issus, disons, de classes un peu privilégiées, des artistes, des intellectuels, et donc il y avait toute une vie, en fait, que ces internés organisaient, et en particulier pour les enfants. Il y avait une espèce de groupe qui s'était mis en place et ils avaient plusieurs journaux, dont un qui s'appelle Védem. Et dans ce journal, on a des dessins faits par les enfants qui montrent le tournage. Et avec un commentaire du genre, on nous filme d'une manière, enfin, qui ne correspond pas du tout à la réalité. Et ça, c'est très fort et très beau parce que ça permet d'avoir un contrepoint, ce qui est très peu fréquent.
Ah oui, parce que réussir à croiser les sources, c'est compliqué quand il y a manque de sources. Theresienstadt, c'est aujourd'hui en République tchèque, hein, c'est tout au nord de la République tchèque. Et cette question-là, c'est une question qui, tout de suite, intéresse les armées qui arrivent, et on le dit bien, libérer, le mot est complexe, hein, quand on parle de ces centres de mise à mort, dans le cas d'Auschwitz notamment, où les nazis sont déjà partis, quand ils découvrent le lieu. Il y a déjà les infrastructures suffisantes pour capter des images, des appareils photographiques qui accompagnent les armées, des caméras.
Oui, chaque armée a son unité de photographes, de photos de presse, de gens qui vont filmer. Et puis ça se met, mais là Christian t'en parlera mieux que moi, ça se met en place pas vraiment tout de suite. Quand les armées s'aperçoivent de l'étendue des dégâts, il faut commencer à parler information, propagande, entre guillemets, de ces images-là. Et donc, effectivement, on va dépêcher, notamment côté Libération de l'Ouest, les armées américaines, des vrais photographes, des reporters qui vont faire un énorme travail. Et on pense à Eric Schwab, par exemple, sur Français, qui va faire tout ce travail. Après, aujourd'hui, que fait-on de ces images? C'est peut-être un autre sujet, mais ces images qui sont marquées avec des ayants droit posent un autre problème aujourd'hui, qui est l'utilisation de ces images de photographes de renommée, donc qui appartiennent en fait à des agences de presse aujourd'hui. Donc comment on les utilise, c'est un autre problème. Elles sont pas anonymes, ces images. Beaucoup ont en fait des droits d'auteur dessus.
C'est intéressant ce que vous nous dites là, parce qu'on n'y pense jamais. Hein, le document historique est patrimonial tel qu'on l'imagine, alors que concrètement, il y a tout un effet de droit d'auteur. Il y a les ayants droit de ces cinéastes et de ces photographes qui ont découvert les plans.
Oui, il y a l'AFP qui peut vous prendre des droits. Après, il y a d'autres systèmes. Il suffit aussi d'aller à Washington, au NARA par exemple, au National Archive. Et là, en fait, vous arrivez et il y a des millions de clichés. Et on vous donne un scanner et vous pouvez tout à fait scanner les images, donc les mêmes images, recto verso, attention au verso parce que c'est là où il y a tous les commentaires et toutes les explications. Et vous les utilisez en mettant NARA. Donc bon, Mémorial de la Shoah, c'est ce que nous pratiquons, mais si jamais on doit en faire une publication, c'est plus difficile. On peut avoir des problèmes avec les ayants droit.
Avec les ayants droit de ceux, plus que celles, hein, il n'y a pas beaucoup de femmes hein, qui ont laissé des traces de ces photographies. Il y en a quelques-unes ou pas?
Il y a des grandes photographes.
Lee Miller aux États-Unis, qui était évidemment là.
Margaret Bourke-White, dont on a, nous, des tirages originaux.
Oui.
Voilà, trouvé par un collectionneur et qu'on a acheté. Et donc, on a les droits patrimoniaux sur ces images. Mais oui, il y a après tout le problème des droits. Et là, en tant que documentaliste iconographe, c'est un autre problème que les historiens. On gère ça aussi.
Alors, c'est vrai que les stratégies sont différentes, hein, vraiment entre les Américains et les Soviétiques, comme je l'ai un petit peu dit tout à l'heure. Alors, les Soviétiques, on a longtemps peu été informés, j'entends les historiens, parce que les archives n'étaient pas vraiment accessibles, parce que il n'y avait pas vraiment d'intérêt côté soviétique à les montrer ou à les inventorier, etc. Donc là, il faut saluer tout le travail qui a été fait, en particulier au moment de l'exposition sur les soviétiques et la guerre et la découverte des camps qui a été faite par toute une équipe autour de Valérie Posner, Vanessa Voisin. Donc ça, elles ont vraiment fait un travail énorme d'aller sur place, de visionner ces images qui n'avaient pas, pour la plupart, été jamais vues, et surtout de les identifier. Et de nous dire qu'au fond, côté soviétique, à la fois, c'est très curieux, à la fois il y a des instructions, puis en même temps pas vraiment. Enfin, et donc les opérateurs sont au centre du processus, que ce soit en Union soviétique ou côté États-Unis. Ce que je veux dire par là, c'est que l'opérateur qui arrive sur le terrain, il peut dépendre d'une structure institutionnelle, il peut dépendre, je dirais peut-être, d'une idéologie particulière, mais il va être confronté à quelque chose qui va être beaucoup plus fort, si vous voulez, que toutes les précautions qui ont pu être prises. Alors, côté américain, on est préparé. Ça, c'est très important. On est préparé de deux manières. Par un cahier des charges, qui dit à l'opérateur ce qu'il doit faire, et par un objectif qui est très vite précisé, dès 1943, qui est que ces images doivent être prises d'une manière telle qu'elles ne puissent pas être contestées et qu'elles soient éventuellement présentées comme preuve s'il y a un procès. Et à l'époque, en 1943, on ne sait pas du tout qu'il va y avoir ce qu'on appelle le procès de Nuremberg. Donc ça veut dire que ces opérateurs, ils arrivent pas sans être préparés. Alors un point très important à mon sens, c'est que le cahier des charges dont disposent par exemple les opérateurs américains que j'ai pu retrouver, je crois que ça a été plus difficile côté soviétique vu le nombre par ailleurs d'opérateurs, plus de 200 qui sont impliqués, c'est que les dispositions qui doivent être prises quand vous vous trouvez face à ce qu'on appelle à l'époque une atrocité, parce que ce sont les termes qui sont employés, eh bien, c'est de vous comporter, en fait, comme vous le ferez par rapport à tout autre événement. Il n'y a pas de disposition particulière. Il y a un cahier des charges général. Vous pouvez être confronté à des atrocités. Et là, vous devez simplement faire plus de travail, c'est-à-dire non seulement photographier ou filmer, mais prendre des notes, dire où vous êtes, quelle date, qui est là, est-ce que vous avez des témoins autour qui vont attester d'eux, etc. Et ensuite, certains, c'était le cas pour l'équipe de George Stevens, ont employé des écrivains comme Yvan Moffat, qui, eux, écrivaient non pas sur ce qu'ils voyaient en arrivant dans les camps, mais écrivaient sur ce que les opérateurs ressentaient. Et ça a été au cœur de l'exposition que nous avons faite, Filmer les camps mémorial en 2010. C'est-à-dire que pour la première fois, nous montrions des images qui sont muettes à 95%. Là, on revient à la question que vous posiez, Xavier Mauduit, qui est les moyens, ils n'étaient pas non plus considérables. Pareil côté soviétique, au niveau son, il y a très peu de choses qui sont sonores, et en général, la qualité n'est pas très bonne. Mais on réservait ça, par exemple, aux entretiens qui ont été faits avec les déportés. Et donc, cette volonté, n'est-ce pas, d'être précis, d'avoir aussi une documentation écrite qui entoure l'acte de photographier ou de filmer, c'est vraiment quelque chose qui est partagé. Puis une dernière chose, si je puis dire, c'est que, surtout côté britannique et américain, il y avait quand même cette question qui est, est-ce qu'on va nous croire ? Parce que ce qu'on appelle la nuit de cristal, 1938, le consul américain qui se trouve près d'un endroit où il y a des exactions contre les juifs est déjà totalement sidéré, si vous voulez. C'est-à-dire, faut imaginer ce que c'est quand vous arrivez en 1945, que vous découvrez quelque chose dont vous ignorez en fait. Le sens de ce qui s'est vraiment passé. Et donc, cette préoccupation-là de vérité, elle passe par toute cette documentation que j'ai évoquée, mais elle passe aussi par le fait que certains essayent, par exemple, c'est les Britanniques, de faire des plans à 360 degrés, pour bien montrer qu'il n'y a pas de mise en scène. Les Américains se mettent au milieu. Ils mettent leurs soldats au milieu. Les Soviétiques ne font pas de la même manière, puisque j'ai expliqué qu'ils n'ont pas prouvé, au fond, à leur population ce qui s'est passé. Donc on voit des méthodes, quand même, qui sont sensibles à cette idée. Et le procureur Jackson, le procureur général du procès de Nuremberg, mettra en avant cette idée-là. Les images vont avoir une force aussi de crédibilité, d'attestation. Et il est important qu'elles ne soient pas contestées à l'avenir. Donc, évidemment, elles vont l'être à travers ce qu'on appelle le négationnisme, mais cette conscience-là, dès le moment, si vous voulez, de la prise de vue et des premières diffusions, il est quand même assez exceptionnel, je trouve.
Oui, c'est exceptionnel de saisir cette réflexion qui précède la découverte de ce qui n'est pas imaginable. Christian Delage, vous avez cité George Stevens, vous lui avez consacré une étude, hein, George Stevens de Hollywood à Dachau, et puis vous êtes le co-auteur de l'ouvrage Faire l'histoire en la filmant avec Claire Demoulin. Alors moi, je vous propose pas George Stevens, je vous propose un autre qui a filmé les camps, Samuel Fuller.
Vous étiez parmi les premiers officiers américains à découvrir les camps de concentration.
Moi, je n'étais pas officier, j'étais caporal.
Mais vous y étiez.
On ne l'a su qu'en mai, dans l'après-midi du 7 mai 1945. On a livré la dernière bataille et on a pris un camp. On ignorait quel genre de camp. Mon capitaine a dit au village d'à côté: vous ne saviez pas qu'il y avait un camp juste à côté de chez vous? Vous n'avez rien senti? Il leur a fait sortir les cadavres du charnier, tout nus, et il les a obligés à les habiller et les mettre sur des charrettes qu'ils ont tirées à travers le village de Falkenau pour faire savoir à tout le monde qu'ils avaient menti. J'ai filmé ce moment. Ce fut mon premier film.
Ici, Samuel Fuller, réalisateur, hein, scénariste, et qui a filmé la découverte de ces camps. Mais là, on est du côté ouest de cette histoire-là. Nous étions en 1989. On évoque le registre de l'image depuis tout à l'heure, et on sait bien qu'il y a toutes sortes d'images. On a pu évoquer aussi combien il faut se méfier de l'image, mais ça, on le sait aussi. Mais il y a quelque chose qui est évident dans cette histoire, c'est cette idée de preuve. Et on l'entend là aussi, hein, c'est même sur le moment, et il y est, ce qu'il évoque, c'est « mais faut quand même prouver que c'est vrai, tellement c'est inimaginable ». Là, il y a quelque chose qui est très fort dans cette réflexion autour de l'image.
Oui, mais malgré tout, il y a eu quand même quelques scénarisations, notamment la libération de Mauthausen, qui est refaite en image.
Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'image au moment de la découverte.
Voilà, ouais. les prisonniers, les déportés ne sont pas dans un état de célébrer leur libérateur et donc on refait ces images. Après, la question, c'est comment utiliser ces images refaites qui montrent la libération et non plus la découverte. La découverte, on découvre quelque chose de vide, des cadavres, des gens dans un état vraiment terrible. Et là, on refait ces images. Et on refait aussi les images en février 45. L'armée soviétique refait un certain nombre d'images. Je me souviens, par exemple, de ces photos. On a de ces photos de corps d'un bébé dans la neige. Et cette photo, en fait, on l'a deux fois. Le bébé, la première fois, est d'une certaine façon. Et comme on ne le voit pas bien, il est remis d'une façon à ce qu'on voit son visage. Donc, il y a eu aussi ces moments, mais pour mieux montrer, en fait. Donc, pour mieux montrer l'horreur. C'est la difficulté de ces images. C'est la difficulté aussi des images de propagande nazie. Quand on doit parler de ce qui s'est passé pendant la période des camps, qu'est-ce qu'on utilise comme image? On parle des camps de concentration, des camps d'extermination, centres de mise à mort. On peut aussi parler des camps d'internement, donc pour la France ou autre. Ces images sont des images de propagande, très peu d'images clandestines. Et même s'il y a des images clandestines, elles ne montrent rien, elles disent rien. Donc quand on est iconographe et qu'on doit effectivement illustrer, on est devant un problème tragique, c'est qu'il faut parler et l'image doit illustrer. Donc il y a l'historien qui va analyser toutes ces images et puis il y a nous qui devons faire des expositions, illustrer un ouvrage et rendre compte de cette histoire, d'avérer les faits avec des images. Et donc on peut aussi peut-être parler d'un autre travail qui est le travail du témoignage qui est vraiment fondamental en fait. Parce que quand il n'y a pas d'image, il y a quand même ces survivants qui ont parlé, qu'on a pu interviewer, qu'on continue à interviewer. Et on peut mettre quand même en parallèle, en miroir, ces atrocités, ces images ou ces images de propagande avec ce que vont raconter les témoins. Alors peut-être qu'on a trouvé une espèce de solution à toutes ces images et on est bien conscient que chacune de ces images apporte un problème, mais qu'il faut bien les montrer.
Toutes les images, c'est vrai, posent problème. Elles sont toutes documents et toutes cadrages. Donc c'est un regard particulier. Et Christian Delage, vous avez évoqué il y a quelques instants le négationnisme. Hein, comment ces images ont pu être mises en cause longtemps après. Est-ce que Laure Lalieux, ce matcha vient de nous dire, c'est aussi un des éléments qui va permettre d'alimenter le discours négationniste. C'est que l'armée rouge a mis en scène quelques images après la libération parce que ça ne correspondait pas sur le moment même à ce qu'ils auraient voulu avoir, ou je pense aussi peut-être parce qu'il n'y avait pas le photographe au bon moment et on a voulu reconstituer. Mais ça aussi, c'est tout un discours qui se construit autour de l'image.
Oui, alors c'est vrai que là aussi, il faut revenir à cette situation où les opérateurs arrivent. Ils sont d'abord impressionnés par la taille de ces camps. Ils n'imaginaient pas puisse y avoir autant de baraques, enfin je veux dire, c'est... Ils voient des gens en très mauvais état survivants, ils voient beaucoup de cadavres, et ils voient ces baraques, que ce soit à Dachau ou à Auschwitz-Birkenau. Bon. Ils peuvent avoir une réaction, qui est d'ailleurs aussi celle d'un certain nombre d'internés, qui est de se venger immédiatement. C'est-à-dire qu'à Dachau, on a un certain nombre de gardes qui sont bien, bien massacrés. Ils sont violentés, parfois ils sont tués. Bon. Il a failli y avoir une commission d'enquête là-dessus, côté États-Unis. Bon, on a considéré que c'était pas... Donc, quand Sam Fuller dit ce qui se passe à Falkenau, c'est-à-dire qu'au fond, c'est comme si vous vouliez transférer la colère que vous avez, après l'effet de sidération, sur, au fond, les premières personnes qui se trouvent là, quoi. Les premières personnes qui se trouvent là, c'est ceux qui sont alentour. Et le fait de faire venir dans les camps, alors là, c'est plutôt dans les camps de l'Ouest, les gens qui habitaient autour, à mon sens, c'est pour tout de suite, au fond, interroger la culpabilité allemande, un peu dans son ensemble, si vous voulez, et en même temps pour dire, voilà, peut-être que vous allez nous dire que vous ne saviez pas ce qui se passait, mais maintenant, vous le saurez, vous ne pourrez pas le contester. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, l'autre chose, c'est le respect par rapport aux personnes qui sont là. Alors, On a souvent dit que les Américains arrivaient avec leurs caméras, etc., qu'ils étaient jeunes, qu'ils comprenaient rien et qu'ils ont fait, qu'ils ont violenté un peu les gens qui étaient là. Non, pas du tout. Au contraire, ils essayent, si vous voulez, d'être le plus proche d'eux et d'entrer. Mais c'est très difficile parce que les gens, en face, faut imaginer ce que ça représente. Bon. Donc, ils entrent, leur première réaction, c'est d'abord de prendre connaissance, en quelque sorte, de l'endroit où ils se trouvent et d'être presque submergé par tout ce qui leur est donné à voir. Alors, ils filment un certain nombre de choses, mais c'est un peu... Parce que vous n'avez pas, même si vous êtes opérateur, vous n'avez pas immédiatement le réflexe de dire « je filme », quoi. On n'est pas aujourd'hui, si vous voulez. Donc, en plus, c'est une décision qui doit être prise en tenant compte du nombre de mètres de pellicule qu'on a, enfin de conditions matérielles, du temps même que chaque bobine propose, parce qu'après, il va falloir changer de bobine. Bon. Donc, ils se disent... Alors là, c'est aussi bien côté soviétique que côté américain. Ils se disent, bon, on va... OK, on est là depuis plusieurs jours, on va refaire notre entrée. Donc, on re-rentre avec les chars, etc. Et on refilme de manière plus propre pour honorer, en quelque sorte, ce moment. Alors, c'est vrai que c'est pour valoriser leur action, d'accord, mais c'est aussi pour donner une sorte de cadre qui soit plus digne, si vous voulez, moins dans la brutalité de la confrontation. Donc, je pense que toutes ces images, de toute façon, sont très peu montrées. Enfin, je veux dire, il faut le dire. Elles sont très peu diffusées. Donc, si elles le sont, elles sont souvent dans une exposition, dans un film, dans la classe. Et donc, forcément, elles sont accompagnées des commentaires que nous essayons de faire aujourd'hui devant vous, pour vos auditeurs. C'est-à-dire que, oui, il faut faire un petit travail pour expliquer de quoi il s'agit. Mais la partie mise en scène, elle est archi minoritaire, si vous voulez, par rapport à tout le reste. Et puis, vous avez, concernant justement... George Stevens, vous savez, il avait pris sa petite caméra couleur, si vous voulez, donc il a pris un certain nombre d'images qui ne sont pas des images destinées à l'armée américaine, enfin aux responsables américains, et donc on a une vision qui est un petit peu différente. Puis une dernière chose que je voudrais dire sur la manière dont on filme. Quand vous arrivez dans ces endroits aussi grands comme ça, vous réagissez aussi en professionnel. C'est-à-dire, comment je vais rendre compte de la taille de ce camp? Donc, il y a quelques images aériennes, hein, qui ont été faites. Et puis, au sol, vous avez deux possibilités. Soit vous posez votre caméra. Donc là, c'est une caméra 35 mm sur un pied. C'est très lourd. Avec un temps de durée qui sera d'environ 12 minutes. Soit vous prenez la petite caméra Bell & Howell 16 mm, celle que Sam Fuller a, celle que George Stevens a. Et là, vous êtes beaucoup plus libre parce que vous pouvez avancer en marchant et en même temps en filmant. Et là, il y a quelque chose qui se produit qui, du point de vue, si vous voulez, du contact entre les internés et les opérateurs, est beaucoup plus souple et beaucoup plus fluide, si vous voulez. Et là, vous pouvez même voir des gens sourire parce que tout à coup, ils prennent conscience qu'ils sont filmés, si vous voulez. Enfin, je parle évidemment de ceux qui sont dans un relativement bon état.
Avec ici un effet prisme que nous avons dans une émission consacrée aux images des centres de mise à mort et toute cette réflexion et leur lieu. Samadja, il y a la réalité du moment de la découverte du camp et cette horreur qui transparaît dans les images, cette horreur indicible. Les odeurs, elles ne sont pas sur les images, elles ne sont pas dans les films, mais il y a des cadavres partout, il y a des gens et quand on voit les images, on est obligatoirement plus que meurtri, tellement on a du mal à imaginer qu'un corps humain puisse être aussi supplicié. Il y a de ça peut-être dans cette priorité du moment. Il y a toutes les réflexions, faut soigner les gens, faut les sauver, on ne peut pas les sauver.
Oui, qu'on voit d'ailleurs dans ces images, puisqu'il y a une continuité. Et puis les images des camps de concentration, c'est parce que la polémique, entre guillemets, est-ce que ce serait de dire, est-ce que ces images des camps de concentration nous parlent de la Shoah ? Est-ce que ce sont les images d'Auschwitz qui nous parlent de la Shoah ? Est-ce que les images des camps de concentration, donc le système concentrationnaire nazi qui était pour les politiques, les otages, et finalement assez peu les juifs civils, est-ce que ça nous parle de la Shoah ? Nous, on sait que c'est la suite des marches de la mort, de l'évacuation du centre principal Auschwitz-Birkenau, que des milliers de juifs se sont retrouvés dans ce camp, et on sait que c'est les charniers qu'on a tous en tête. Il y a beaucoup de juifs et on sait aussi qu'on a, sur les images qu'on peut, on peut identifier des juifs. Donc oui, ça fait partie, enfin bon, c'est mon avis, ça fait partie de l'iconographie de la Shoah. Parce que c'est la suite de ce qui s'est passé pour ces juifs de Birkenau exterminés. Et je voulais revenir aussi sur les images d'Auschwitz qui sont un peu plus compliquées à comprendre parce que d'abord elles sont tournées en fait quelques jours après que l'armée rouge, quand cette armée arrive à Auschwitz et enfin découvre l'horreur, ce sont des moribonds. Il y a des cadavres, on le sait, etc. Mais il y a les survivants, ce sont des moribonds. Et c'est eux et on voit les images, elles sont terribles. On leur met des couvertures, on leur dit mettez-vous devant les barbelés et on filme ça. On a des témoignages qui nous racontent comment on les a fait un peu sortir. Ils étaient dans un état pas possible pour les images. Et on mélange. Il y a des photos qu'on a beaucoup utilisées où on voit des femmes plutôt bien portantes assises sur des chalits. Ce sont des Polonaises, ce ne sont pas des Juives. Donc on mélange toutes les images. Et il a fallu du temps pour séparer le travail d'historien, pour séparer ces images, qu'on ne puisse pas les mettre pour parler de la Shoah. On ne peut pas mettre des femmes polonaises bien grasses, entre guillemets, pour dire c'est la Shoah, c'est pas la Shoah. Et puis ces images de ces juifs moribonds, là c'est la Shoah et des personnes se sont reconnues. Et un jour au centre de documentation, la fille d'une de ces femmes qui était d'origine hollandaise m'a dit s'il vous plaît ne montrez plus ces images, elles sont terribles, je veux plus voir ma mère comme ça. Donc il y a de la sensibilité, il y a du sens à ces images et elles sont effectivement représentative de ce qui s'est passé à ce moment-là dans la découverte des camps. Qu'est-ce qui restait ?
Et ce que vous évoquez là, c'est ce rapport à l'individu et puis au groupe. Et on le retrouve dans ces images filmées. Filmer l'individu, filmer un visage, n'est pas la même chose que filmer une fosse commune ou des corps entassés. Il y a ces deux regards à porter, et là c'est vraiment ce langage cinématographique hein, du plan large et du gros plan. On va retrouver tout ça dans la réflexion de ceux, de celles aussi, qui vont filmer ces camps.
Oui, on essaye évidemment c'est compliqué de s'approcher trop près, si vous voulez, quand le visage est émacié, etc. En même temps, on veut témoigner. Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Lior, je crois que il y a aussi un certain nombre d'entretiens qui ont été filmés vraiment, alors là, dans des conditions sur place, avec du son, bien sûr, à Birkenau. Et ça, c'est quand même une manière, justement, de sortir de cette question-là. Ce qu'évoquait Lior, c'est exactement ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est-à-dire que quand les Soviétiques arrivent, il fait nuit, il n'y a plus d'électricité. Dans les chalets, c'est tellement noir qu'on ne peut pas filmer. Donc, on décide de refaire. Donc oui, et ça, le tournage à Auschwitz a démarré le lendemain, le 28 janvier. C'est déroulé ensuite pendant plusieurs semaines, puisqu'on voit des plans avec de la neige, on voit des plans au printemps, tout ça. Encore une fois, Valérie Posner et Vanessa Voisin l'ont montré. Donc, il y a cette volonté-là. Mais il y a aussi des témoignages, ça me semble important. Et puis, oui, on a pu lire ici ou là dans la presse l'idée, est-ce que ces images montrent la Shoah ? Alors, je crois que c'est un petit peu un anachronisme quand même de dire cela, si vous voulez. Parce que ce qu'on appelle la Shoah, et le mot est né progressivement, et c'est surtout Claude Lanzmann avec son film qui l'a popularisé, si je puis dire. Mais ce qu'on appelle la Shoah, c'est à la fois l'événement en tant que tel, mais c'est aussi tout le travail qui a été fait pour comprendre cet événement. C'est-à-dire, en fait, c'est l'accumulation de toutes les connaissances, de tout ce que Lior a évoqué sur les amicales, du travail qui n'est pas seulement le travail des historiens, des artistes, des cinéastes, des anciens qui sont revenus, etc. Des grandes collectes de témoignages, ce qu'il faut quand même le dire, ces collectes de témoignages à Yale, plus de 5000 témoignages. La Fondation Spielberg, plus de 50 000 témoignages. Yad Vashem, le mémorial. Tous ces témoignages sont filmés. Pourquoi on les filme ? Parce qu'on voit les personnes. Alors que, par exemple, Richard Boder, qui est l'un des premiers à enregistrer des témoignages, alors pas seulement des déportés juifs, hein, mais des anciens prisonniers aussi. Richard Boder, qui est un Américain qui vit en Europe avec une sorte de premier nagra, parce qu'il est passionné par le son, et donc il va faire beaucoup d'entretiens qui sont maintenant tout à fait disponibles en ligne. Donc, je crois que la question... Donc, on ne peut pas parler tout de suite... On a aussi dit que le procès de Nuremberg ne parle pas de la Shoah. C'est ignoré qu'au mois de juin 1945, le procureur Jackson rencontre les responsables de la communauté juive internationale, en particulier Jacob Robinson. Jacob Robinson, on est au mois de juin 1945. Il parle avec Jackson pour lui expliquer, à partir des chiffres qu'il a, qu'on est entre 5 et 6 millions de juifs qui ont été exterminés. Donc on a quand même déjà le chiffre. Et Jacob Robinson sera le conseiller de Ben-Gourion pour le procès Eichmann, etc., etc. C'est-à-dire, c'est une construction progressive. Et si j'ai l'occasion, je voudrais lire un extrait d'un témoignage d'un rabbin qui est venu dans le camp de Dachau. Si vous...
Allez-y, allez-y.
Voilà, donc c'est juste pour dire que l'un des problèmes, si vous voulez, c'est que quand on découvre ces camps, alors pas pour Auschwitz, puisqu'il ne restait que 7000 environ personnes qui étaient dans un très mauvais état, mais dans les autres camps, en fait, il y a eu beaucoup de mouvements dans les derniers temps à cause des marches de la mort, à cause des transferts, etc. Donc vous pouvez trouver dans des camps dits de concentration des juifs qui viennent d'autres camps qui étaient des camps, eux, qui étaient voués à l'extermination. Donc ça, évidemment, comment pour ceux qui arrivent et qui ne connaissent absolument pas ce qui s'est passé, comprendre ce qui s'est... Bon, mais en tout cas, le 5 mai 1945, un rabbin qui s'appelle David Eichhorn arrive à Dachau. Et donc, je veux dire, il n'a pas plus de connaissances que les autres de ce qui s'est passé. Je veux dire, il est américain, il vient de Philadelphie, bon. Alors, il dit ceci, je me permets de le lire parce que je trouve que c'est un très très beau moment. Il dit « Mes chers frères juifs de Dachau », il s'adresse quand même à cette partie-là, de la communauté qui se trouve à Dachau. « Aujourd'hui, je m'adresse à vous à un double titre, en ma qualité de soldat de l'armée américaine et en tant que représentant de la communauté juive d'Amérique. » En tant que soldat américain, je suis extrêmement fier d'être ici, de savoir que nous avons contribué à la destruction de la plus implacable tyrannie de tous les temps. Je vous parle également en tant que juif, en tant que rabbin d'Israël, en tant qu'homme qui enseigne la philosophie religieuse qui vous est plus familière que la vie elle-même. Quel message de réconfort et de force puis-je vous apporter à vous, mes frères juifs ? Que puis-je dire qui puisse se comparer en profondeur et en intensité à ce que vous avez subi et surmonté ? Je suis parfaitement conscient de la vacuité de simples mots en cet instant de tristesse et de joie matinée. Je veux dire, ça dit bien que même lui, il est dans une position d'extrême modestie, si vous voulez, par rapport à sa propre connaissance ou par rapport à ce qu'il peut dire à ceux qui ont enduré ce qui vient de se passer. Et je termine juste une toute petite autre citation. Ivan Moffat, donc cet écrivain britannique que George Stevens a convié à le suivre, à la fois depuis le débarquement, mais jusqu'à l'arrivée en Allemagne, eh bien, il dit ceci. « Pour certains de ces Juifs, debout en plein vent, devant la tribune décorée, écoutant la voix du rabbin américain, la semaine écoulée avait récapitulé l'histoire et condensé le sens de leur vie tout entière. Pour d'autres, ce fut une semaine dont ils célébraient le septième jour pour la première fois. Certains Juifs âgés de 11 et 12 ans placés tout près, entendaient pour la première fois la voix de leur religion, celle qui les avait fait jeter à l'aube de leur vie dans une inexplicable captivité. Pour les Juifs plus âgés, ce fut un moment d'émotion intense. Familles perdues, foyers brûlés et détruits, leurs enfants gazés ou asservis dans les inconcevables enfers lointains de Pologne, Russie et Allemagne. » Je veux dire, là, on a quand même quelqu'un qui nous dit que, voilà, les Juifs en face desquels ils se trouvent, ben, ils viennent peut-être de ces camps-là, de ces camps de la mort, et en tout cas qu'une grande partie sont restés là-bas. Donc on a quelque chose qui, à mon sens, nous dit que cette prise en compte de la spécificité du crime contre les Juifs, qu'on va appeler ensuite... Parce que quand Raoul Hilberg il fait son grand livre, il n'appelle pas ça la Shoah ou l'Holocauste, il appelle ça la destruction des Juifs d'Europe. Donc les mots ont leur sens, si vous voulez, et donc n'anticipons pas trop ce qui s'est fait après. Déjà, je trouve que le geste de ce rabbin, d'humilité et en même temps l'incroyable analyse d'Ivan Moffat qui comprend voilà le décalage ou le lien entre les camps de la mort et ce camp me semble très important et très important à souligner.
Dans ce que vous venez de lire, il y a ce temps qui passe de la naissance qui condamne et puis à l'exécution, avec ici cette idée de cliché, mais je prends ce mot premier, sur un temps très court. Une photographie, c'est un moment, c'est quelques secondes, un film, c'est quelques minutes. C'est-à-dire que ces images dont nous parlons, celles de la découverte des camps, c'est un instantané, c'est juste un moment de cette très longue histoire. Et Christian Delage, quand vous avez évoqué ces monceaux de cheveux, de paires de lunettes, de valises, ce n'est juste que le témoignage un peu en négatif des centaines de milliers, des millions d'autres qui sont morts auparavant. Il y a cette complexité aussi de l'image, de juste montrer un peu et qu'est-ce que ça dit de l'ensemble.
On ressent aussi ça quand on écoute les témoignages des rescapés. Ils sont très rarement arrivés seuls. Ils arrivent avec des parents, ils arrivent avec des petits frères, avec des petites sœurs, avec oncles, tantes, etc. Et ce sont les seuls survivants. Et c'est ça qu'on ressent. C'est-à-dire que si on fait des statistiques pour chacune de ces personnes, chacun de ces témoignages, les gens ressortent seuls. Ils sont les seuls survivants et c'est ce qu'ils racontent dans leurs témoignages. Alors, y a Simone Jacob, Simone Veil, qui raconte qu'elle est ressortie avec sa sœur, qu'elle perdra un peu plus tard, malheureusement. Mais j'ai réécouté hier Simone Pollack un petit peu pour l'émission et pour remettre tout ça. C'est un parmi d'autres, mais Simone Pollack qui est bien vivante, qui vit à Strasbourg, qui est une femme extraordinaire qu'on a interviewée seulement en 2022, nous, Mémorial de la Shoah. Elle raconte avec tellement de détails tout ce qui lui est arrivé jusqu'à la séparation. Et c'est le moment où elle s'arrête et elle fait l'inventaire. Et on peut écouter tous ces témoignages et on fait l'inventaire. Qu'est-ce qui reste ? Ils sont seuls. Ils ont été déportés, rarement seuls. Mais je parle des survivants. Et les témoignages sont terrifiants à ce niveau-là. Et donc nous, ce qu'on leur demande, c'est tous ces témoignages qu'on écoute ensuite, qu'on va chapitrer, qu'on va indexer, ça c'est notre travail de documentaliste, on va relever tous les noms qui ont été cités. Parce qu'au cours de leur déportation, ils ont rencontré telle femme, tel homme, telle infirmière. Alors ils citent des noms comme ça et nous on leur dit mais c'est qui ? Donnez-nous un nom, un prénom. Et tous ces noms, on les relève, on les indexe, on essaye de chercher une biographie. Et on continue ce travail. Ce travail n'en finit jamais, en fait. Chaque témoignage nous apporte énormément de détails. Voilà. Donc, il y a la photo, un instantané. Et puis, il y a tout ce qu'il y a derrière, toutes ces vies brisées, mais qui se relèvent. Parce que à chaque fin de témoignage, on pose la question de pourquoi vous témoignez, pour la mémoire, pour l'histoire, pour mes enfants, pour qu'il reste quelque chose.
Et puis un peu peut-être aussi pour l'humanité, pour nous, enfin cette très longue histoire, c'est la nôtre. Et pour les images, on l'a bien perçu ici dans la démarche de prendre des images au moment de la découverte de ces centres de mise à mort, il y a aussi une volonté et celle-là, elle est à destination de la justice.
Les débats risquent d'être longs et les films risquent de perdre une grande partie de leur impact s'ils sont montrés seulement à un moment donné. De même, je comprends que nous disposons d'une quantité considérable de films adéquats et qu'il y en a probablement trop pour tout montrer en une fois. Par ailleurs, les films doivent être traités comme un type de preuve normale et légitime et utilisés au moment les plus opportuns du procès, au moment où ils seront les plus utiles pour ce que nous voulons démontrer. J'ai le sentiment qu'une certaine utilisation du film devra être faite relativement tôt dans les débats afin que le tribunal s'habitue plus aisément au film en tant qu'élément normal du corpus de preuves. Je crains cependant qu'en utilisant des films dès le début, le côté hollywoodien ne nous porte un coup fatal.
France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Raphaël Laloum qui nous lisait cette note de service à l'intention du juge Jackson. Nous étions en novembre 1945, c'est évidemment dans le cadre du procès de Nuremberg. Réflexion fascinante hein, d'ailleurs hein, d'évoquer Hollywood ici et déjà cette prise en compte de la complexité de ces images mais de leur absolue nécessité. Elles ont été utilisées à Nuremberg.
Oui, donc celui en fait qui on vient entendre le texte, c'est Telford Taylor qui est donc l'un des adjoints de Robert Jackson. Telford Taylor c'est une personnalité très très importante hein, puisque D'une part, il va écrire un livre important sur le procès de Nuremberg, mais ensuite ce sera une figure de la gauche américaine intervenant sur le Vietnam, faisant partie de ces intellectuels qui se demandent comment, alors que l'Amérique a été motrice dans le procès de Nuremberg, elle peut ensuite elle-même commettre des actes qui sont contraires à l'esprit de Nuremberg. Alors oui, Taylor donc fait cette note, on est quelques jours avant l'ouverture du procès, très vite, le premier film va être montré, le 29 novembre, donc ce sera le film américain, puis ensuite, au mois de décembre, ce sera le film soviétique. Ce qui est, si vous voulez, dans ce moment, on est quand même quelques mois après la capitulation de l'Allemagne nazie. Enfin, je veux dire, faut imaginer quand même la rapidité. On dit toujours que la justice est lente, mais alors là, quand même. Et la justice n'a pas été rapide en bâclant, je dirais, le dossier. Pas du tout. Ce qui est fascinant, moi, quand j'ai commencé à travailler sur cette question, ce qui m'a fasciné dans les archives américaines, c'est de découvrir l'incroyable travail qui a été fait pendant l'été. L'été 1945, où les États-Unis ont envoyé en Europe un certain nombre de gens qui étaient des historiens, des intellectuels, des gens qui parlaient toutes les langues nécessaires pour comprendre ce qui était écrit en allemand, en polonais, etc. Et donc, il y a vraiment une Robert Jackson, c'est quelqu'un qui est assez classique, si vous voulez, du point de vue de sa formation. C'est quelqu'un qui est très très loin, justement, de ce que peut représenter Hollywood. Et pourtant, alors qu'il veut faire ce qu'on appelle un procès documentaire au sens où il va falloir que le procès s'appuie sur une masse de documents, que ce soit pas justement ce qu'on a appelé par la suite de manière, à mon avis, erronée, un procès des vainqueurs. Hein. C'est pas un procès je vois pas comment on peut être vainqueur quand on a 6 millions de juifs qui sont morts dans les camps, je veux dire.
Et une remarque très juste. Oui.
Quel est le sens du mot victoire dans ce cas-là? Enfin, je veux dire, sauf considérer qu'on a arrêter, au fond, le processus, d'accord, mais bon. Donc, il veut faire un procès documentaire. Dans notre langage à nous, on pourrait dire que c'est peut-être quelqu'un de plutôt positiviste. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'appuie énormément sur l'archive. Et pour autant, il décide de montrer des images. Alors là, faut se dire quand même que c'est un risque énorme. Dès le début, de montrer des images, parce que le risque, c'est de passer justement d'une masse sur laquelle tout le monde sera d'accord, puisque c'est des documents qui proviennent majoritairement des Allemands eux-mêmes. Donc on va les juger à partir de ce que eux ont édicté, dit, etc. Et qu'on passe à des images qui... Bon, alors, il faut le dire, le premier film qui a été montré, il n'y a pas eu de discussion avec les accusés. On leur a proposé de le voir avant, ils ont refusé. Donc on leur montre... en même temps qu'on le montre à l'ensemble des protagonistes du procès et à la presse, enfin, je veux dire, pendant l'audience, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque une sidération totale, si vous voulez. C'est-à-dire que les gens sont sous le coup, parce que là, pour le coup, c'est la première fois. Enfin, ces images avaient déjà été montrées dans une forme de pré-documentaire aux États-Unis, y compris dans des salles de cinéma, mais les grands circuits étaient un peu tièdes à montrer ce genre d'images horribles. Est-ce qu'on les montre aux enfants? Donc c'était interdit au moins de 16 ans. Enfin bref. Donc elles avaient un petit peu circulé. Mais quand même, là dans Saint-Anne, ça prend une dimension considérable. Eh bien, précisément, donc Taylor s'interroge pour dire, bon, par rapport aux autres documents, quelle va être la fonction de ces images? Alors on le sait sur les accusés. C'est pour ça que moi j'avais appelé mon film « Les nazis face à leur crime », Nuremberg, film que j'avais fait pour Arte en 2006. C'est que il y avait autour des accusés, à côté d'eux, il y avait un capitaine qui s'appelle capitaine Gilbert, qui était un psychologue, qui était requis par l'armée américaine pour suivre au quotidien les réactions de ces accusés. Et on a quelques images de leur visage juste après la projection, et on voit que certains sont sous le choc. Alors, il ne s'agit pas d'en tirer une conclusion, si vous voulez. Ils ont été choqués parce que beaucoup d'entre eux n'avaient jamais été, si vous voulez, dans ces camps. Faut aussi se le dire. C'est donc là, pour le coup, on les met face à leurs crimes. Et il y a une peintre britannique qui a eu la très très bonne idée de faire un tableau, si vous voulez, on voit en alignement les 21 accusés qui sont présents. Et... donc on a plein d'images sur ce banc des accusés, mais là elle a fait une peinture de profil, et au fond, elle montre des ruines fumantes, elle montre des destructions. Et ça, j'ai trouvé ça très fort, c'est-à-dire que pour la première fois au fond, et c'est un processus qui va avoir toute son importance puisqu'il va aller jusqu'à aujourd'hui, les procès qu'on a eu pour les attentats du 13 novembre, les procès dits rwandais qui ont lieu en France, etc. Peut-être bientôt les procès syriens, il y en a déjà eu un. Eh bien, le choc, si vous voulez, ne se limite pas à la sidération, mais entraîne en quelque sorte une confrontation qui, évidemment, est aussi le lieu de l'espace judiciaire, sachant que pour organiser cette confrontation, il avait fallu déplacer les juges qui n'étaient plus au centre, mais sur le côté. Donc, du coup, l'écran provoquait quelque chose de très fort, quoi.
Oui, parce que cette place de l'image au procès de Nuremberg là, que vous évoquez, vous l'associez, Christian Delage, à la sidération. Ce mot est très fort, hein, de sidération, et je crois qu'on peut l'utiliser encore aujourd'hui. La sidération, c'est, même si nous connaissons cette histoire parce que nous l'étudions, toujours le sentiment qui nous prend au cœur quand on voit ces images-là.
Moi, je suis très surprise et je voudrais poser la question à Christian. Parce que nous, quand on a fait l'exposition permanente, ces images, on les a pas du tout évacuées, elles sont là. Mais on a vraiment pensé les enfants qui allaient venir, les scolaires qui allaient venir, donc on les a mis en hauteur. Quand on visite l'exposition de SHMM à Washington, les images, elles sont même à l'inverse bas, mais avec une espèce de petit muret où il faut avoir une certaine taille pour pouvoir les voir. Donc pendant des années, on a un peu caché ces images au regard... justement, éviter la sidération, le choc. Et puis, l'Imperial War Museum, la nouvelle expo, et là, je suis choquée. Alors, je sais pas, je suis interloquée parce que les images de la libération du camp de Birkenau-Belsen sont terribles et elles sont, font parfois, il y a beaucoup de rush et mis bout à bout, elles sont terrifiantes. Or, quand on arrive à la fin de l'exposition sur la Shoah à l'Imperial War Museum, c'est un immense écran. On ne peut pas ne pas les voir et on reste comme ça. Et j'ai vu les gens comme moi, qui, pourtant je les connais, rester comme ça abasourdis devant ces images et les regarder et être complètement sous le choc. Et donc je me demande si s'il n'y a pas un changement, ou alors c'est un problème culturel, quelle est la suite pour ces images? Est-ce qu'on peut maintenant les montrer à ce point-là, comme ça?
Moi, je n'ai pas vu cette exposition nouvelle à Londres, mais ce que tu m'en dis m'horrifie. Enfin, je veux dire, c'est exactement le contraire. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous qui travaillons sur les images, pas seulement sur les images, encore une fois, puisque j'ai dit qu'on travaille aussi sur tout cet environnement de texte, et puis on n'est pas que focalisé là-dessus. Mais en tout cas, le paradoxe, c'est que nous qui travaillons sur les images, nous sommes ceux qui sont le plus... sensible à l'idée de protéger les gens de leur violence, n'est-ce pas? Et pour le 7 octobre, cette question s'est vraiment posée de manière absolument évidente, quoi. C'est-à-dire, oui, enfin, on peut pas montrer comme ça. Enfin, c'est-à-dire, il faut. Alors, c'est pas forcément qu'on voulait cacher, hein, quand on trouve simplement des phénomènes de monstration où on essaye de ne pas trop immédiatement heurter le visiteur par la force des images. La difficulté, c'est quand même ce qu'on avait essayé de faire dans l'exposition Filmer les camps, c'était, et ça la scénographe, on avait vraiment beaucoup travaillé là-dessus, c'était justement d'avoir des formats qui sont différents selon la nature des images que nous montrons et que ces images soient systématiquement au même niveau que tous les textes qui les environnent. Et pour beaucoup d'entre elles, nous avions enregistré le commentaire de gens comme Yvan Moffat pour que les gens, non pas aient notre commentaire d'aujourd'hui, un peu surplombant ou forcément très savant par rapport à l'époque, mais le ressenti des opérateurs. C'est-à-dire qu'au plus on va donner le ressenti de l'opérateur dans ce qu'il a filmé, au mieux on sera par rapport à notre capacité à regarder ces images, parce qu'on verra aussi la personne qui derrière les a prises et qui souvent a eu la précaution de se dire « je suis le premier à les voir, je crée une protection » qui ensuite jouera évidemment pour nous derrière.
C'est salutaire, hein, de vous écouter, parce que ces images-là, et je l'évoquais en début d'émission, nous viennent en tête quand on dit ces mots Auschwitz. Le mot, souvent, c'est libération, on pourrait dire découverte. Et puis, dès lors, on réfléchit maintenant à ce statut de l'image, image si complexe et pourtant si importante. Donc, le temps de réfléchir à ces images, bien, on peut le prendre en allant au mémorial de la Shoah. Merci vivement à vous, Lior Lalieu Spadja, d'être venu dans le cours de l'histoire. Et merci beaucoup à vous, Christian Delage, faire l'histoire en la filmant avec Claire Demoulin. C'est cela aussi, réfléchir à la manière dont s'écrit l'histoire à travers les images. Et justement, puisqu'il est question d'images... Petite parole, celle de Georges Didier Huberman.
La mémoire, c'est une construction. La mémoire demande à être construite. Et il ne faut pas croire qu'une image, c'est juste un donné, comme ça. Pas du tout. C'est plus compliqué que ça.
Et la complexité, elle est importante pour mieux comprendre le monde. C'était le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission réalisée par Anna Holweck et Thomas Boeck. Aujourd'hui, la technique Alex Dang. Émission préparée par Raphaël Laloum, Jeanne Delecroix, Jeanne Copet, Chloé Rouillon et Mayouen Guizou. Le cours de l'histoire est à retrouver à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.